et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Vous avez vu comme quoi je maîtrise le français aujourd'hui.
Ah, les langues, elles
sont super. Un truc de dingue. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est...
C'est moi qui dois dire ?
Oui.
Franck Anese.
Très bien. Anese.
Anese, j'ai dit à l'italienne.
Ah oui, d'accord. Franck Anese, ravi de t'avoir avec nous. Patron de presse, ça te va pour te décrire aujourd'hui ?
Ouais, comme tu veux.
C'est ce qu'on dit de toi.
Moi, je dis souvent ami de Darren.
Ah oui ?
Ouais.
Ça t'ouvre des portes ? Pas beaucoup, hein.
Pour les costumes, ouais. j'ai un look vachement plus travaillé, du coup.
So foot ? Society, il y a eu Sofa avant ça, il y avait SoFilm aussi, il y a Pédale, il y a Tampon.
Si tu les cites tous, c'est la fin du podcast.
On aime beaucoup le nom des magazines aussi, il y a une maison de disques. Franck, tu étais le premier journaliste à faire un papier sur moi, je dois l'avouer à tous nos auditeurs. Dans SoFoot, quand j'ai commencé à la télé en France il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui c'est moi qui pose les questions.
C'est fou.
Ouais.
Comme quoi ?
La vie.
Putain.
Incroyable. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Pour les matchs de la vie de Franck Anese et match numéro 1, Franck, quel est ton choix et pour quelle raison ?
Alors, c'est un Nantes-PSG de 86, parce que c'est mon premier match, en fait, premier match à la Beaujoire, avec mon père qui m'emmenait à Beaujoire, et ça a été après un motif assez récurrent. Et je suis devenu fan du FC Nantes à ce moment-là. Mais ouais, c'était un souvenir incroyable de rentrer dans un stade comme ça. Moi, j'étais un petit mec qui vivait à la campagne. Et les stades, je les voyais à la télé, tu vois. Mais jamais j'étais allé dans un stade vraiment avec plein de gens. Et la Beaujoire, c'est assez impressionnant. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je saurais pas te dire exactement le nombre de spectateurs, mais pour moi, c'était colossal à l'époque. Et puis surtout, tu le vois avec tes yeux d'enfant. Donc je pense qu'aujourd'hui, je rentre dans un stade où il y a 25 ou 30 000 spectateurs. Bon, bah, je connais. Mais à l'époque, tu rentres dans un stade, il y a 25 000 personnes. T'as jamais vu autant de gens dans un même endroit et qui chantent. Je me rappelle, ils chantaient une chanson. Sur le mont Sinaï, le prophète Isaïe dit à son peuple réuni, allez les gens. Machin. Mais j'étais comme un ouf. Tu vois, je chantais et tout. Et c'était vraiment super, quoi. C'était une émotion incroyable. J'avais mon maillot du FC Nantes. Alors, moi, il faut savoir qu'à l'époque, je m'habillais en FC Nantes pour aller à l'école, quoi.
Ah oui.
Ouais, j'allais à l'école primaire avec mon maillot du FC Nantes, mon short du FC Nantes, mes chaussettes du FC Nantes, mes chaussures de foot à crampons sur du bitume. Enfin, tu vois, j'étais vraiment ridicule, quoi. Mais j'étais fan et je voulais faire footballeur professionnel et c'était le but de ma vie et je pensais qu'à ça, quoi. Je jouais au foot. J'étais un petit mec avec des bouclettes et voilà, quoi. Il y avait que ça qui m'intéressait, quoi. C'était le foot et le FC Nantes. Et à partir de cette année-là, donc 86, qui est vraiment l'année où vraiment je m'attache à un club et où je vis le foot à travers des joueurs, je deviens dingue d'un joueur qui s'appelle Jorge Bruchaga.
Oui.
Qui est un joueur argentin du FC Nantes, qui porte le numéro 7, qui devient mon numéro fétiche. Et c'est vraiment... c'est la découverte d'un nouveau monde. Et ce match, en plus, c'est contre le PSG. C'est un match qui est hyper important parce que Nantes est très bien placé. Et y a 2-0 pour le FC Nantes.
Oui.
Avec un but de Vaida Jodzic, qui plus tard rejoindra le PSG.
Oui.
Et puis et un but de Bruchaga.
Oui, ton héros, voilà. Ton idole. T'as presque 9 ans quand tu vas à la Beaujoire donc pour la première fois, avec tous ces souvenirs qui reviennent. Je vois tes yeux qui brillent. Donc tu as dit, c'est papa qui t'emmène.
Ouais, mon père, il adorait le foot.
Ah, c'est vrai ?
Il m'a mis au foot à 4 ans. Et donc à 4 ans, j'ai signé ma première licence dans un club.
Ah oui, quand même.
Et après, c'était sa vie, c'était de faire de mon frère et moi des joueurs de foot professionnels, je pense. Enfin, tu vois, il avait ce... En fait, lui, ses parents lui ont toujours interdit de faire du sport. Et il a toujours rêvé de faire du sport. Vraiment, ça a été un bon coureur, un sprinter. Il était assez fort en sprint, etc. Et en universitaire et tout. Mais il le faisait en cachette de ses parents, tu vois. Donc c'était...
Qu'est-ce qu'ils avaient contre ça ?
Ses parents étaient un peu spéciaux, hein, on va pas se mentir, famille un peu bizarre, et donc il avait pas le droit de faire du sport, il était obligé de s'acheter ses pointes en cachette et tout, voilà. Etc. Il travaillait pour s'acheter ses pointes. Enfin, il a pas mal galéré pour ça, mais il a toujours adoré le sport. Et donc quand nous on vivait dans un petit village qui s'appelait Bourbarré à l'époque. Donc, enfin, ça s'appelle toujours Bourbarré.
Bah, ça a changé de nom.
Ouais, non, ça s'appelle toujours Bourbarré en Ille-et-Vilaine. Et mon père était hyper impliqué dans le club et tout. Ouais. Mais tu vois, c'était un point où nous, quand on était en minime, mon père, il filmait les matchs avec 3 caméras.
Ah oui.
Placé au bord du terrain.
Oh, wow.
Et il avait un camion régie. Et à la mi-temps, on avait des séances vidéo et tout, tu vois.
Non.
Mais oui, mais nous, on faisait les. Enfin, moi, j'étais en sélection de Bretagne avec mon frère. Et quand on faisait les détections, les autres joueurs, ils venaient tous de Rennes, de Brest. Enfin, tu vois, que des grands clubs de la région. Ouais. Et t'avais 2 péquenauds qui venaient de Bourbarré, quoi. Tu vois, les gens se disaient, mais vous jouez où? À Bourbarré. OK. Mais on était. Ouais, tu vois, on jouait. On jouait avec les meilleurs joueurs de la région. Et
ton papa, il faisait quoi alors pour avoir tout ce matos là?
Non, mais en fait, mon père, lui, il travaillait à TDF, Télédiffusion de France. C'est les émetteurs qui retransmettent la télé, quoi. C'est ce qui fait que tu as la télé chez toi, en fait.
D'accord.
Et donc, il a commencé au début, pas au bas de l'échelle, mais pas. Puis il est devenu peu à peu ingénieur, etc. Enfin, il a travaillé énormément. Il a vachement progressé dans la boîte et tout, etc. Il était devenu quelqu'un d'assez important quand même dans cette boîte, mine de rien. Et puis, travailler, c'était une force de travail énorme, tu vois. Moi, j'ai toujours vu mon père partir à 4h du matin pour aller bosser et revenir à 20h, 21h le soir, tu vois. Enfin, c'était un bourreau de travail. Il travaillait tout le temps, il travaillait le week-end. Il adorait son job et c'était un forcené de travail. Et il adorait le foot, donc il se libérait le mercredi après-midi pour les entraînements de foot. Il nous emmenait au foot tous les samedis, il nous emmenait au foot, puis le dimanche, quand les matchs étaient le dimanche. Et il était hyper moteur dans le foot, quoi.
Très enthousiaste pour ses fils, quoi.
Il adorait ça. Et
pas
vraiment...
un de ses papas qui hurle et qui insulte les gamins.
Par contre, nous, on l'insultait. Ah ouais, ouais. Moi, c'était génial.
Comment ça?
Parce que lui, il était tout le temps. Je me rappelle des fois, t'es démarqué. Il va dire au mec, là-bas, il y a Franck qui est tout seul. Évidemment, bah, les adversaires, ils disent, merde.
Ah, hop, attends, merde, il y a Franck tout seul.
Ils viennent sur toi, tu vois. Et toi, tu dis, mais va te faire foutre, connard, mais putain, ferme ta gueule. Tu vois, moi, j'étais hyper vulgaire en plus.
Oh, wow.
Et puis, dès qu'on perdait, c'était de ma faute.
Ah oui.
Tu vois, il était hyper. Quand on gagnait, c'était jamais de ma faute. J'avais beau marquer 3 buts dans le match, on gagnait 3-0.
C'était pas grâce à moi.
Uh-huh. Tu vois, j'avais fait un bon match. Bon. Par contre, quand on perdait, c'était de ma faute.
Ah ouais.
Ouais, tout le temps.
Ah, quand même.
Et pareil pour mon petit frère, tu vois. Il était hyper intransigeant avec nous et très, très dur, mais parce qu'il avait envie de faire de nous des bons joueurs de foot, quoi.
Et dans cette histoire, maman?
Ma mère, je crois qu'elle est quasiment jamais venue me voir jouer au foot. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. Elle était très contente qu'on en fasse et qu'on s'amuse, etc. Par contre, elle se retrouvait surtout à laver des maillots sales et des chaussettes sales. Ça l'amusait moyennement. C'était vraiment l'apogée du patriarcat. C'était un peu terrible. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait tout changé. Ça aurait été très différent. Mais à l'époque, ça, c'était comme ça.
Mmh.
Et puis, par ailleurs, elle est allée voir une fois mon petit frère jouer au foot. Je me souviens, c'était un match contre des Anglais. Donc, ta patrie.
Ah oui.
Ouais. Et les mecs étaient hyper violents. Enfin, tu vois, ils jouaient vraiment au kick and rush à l'ancienne anglaise, hyper violent. Et mon frère, c'est un gars, il se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Et il était petit, hein, à l'époque. Il était même petit par rapport à son équipe et tout, mais il était vraiment très, très fort au foot. Et ce jour-là, il s'est un peu énervé et il a envoyé 2 mecs à l'hosto.
Non.
Ouais.
2 Anglais.
Ouais, 2 Anglais.
Ah, oh, waouh.
Ils ont envoyé les 2 à l'hosto, quoi.
Je vais peut-être devoir arrêter cet enregistrement.
Il trouvait que les mecs faisaient trop de fautes. Il trouvait ça injuste.
Oh,
il a envoyé 2 à l'hosto, quoi.
Ah ouais, quand même.
Et ma mère, elle a plus jamais voulu aller voir un match de foot parce que tous les parents, ils étaient choqués.
Tu m'étonnes.
Parce que Rude, il y allait, mais.
Ah ouais.
Tu vois, c'était du genre, et il allait au combat, il allait mettre une tête, il se prenait un œil au beurre noir, il voulait pas sortir du terrain, il continuait le match.
D'accord. Ouais, petit dur, quand même.
Ouais, petit dur. Une fois, moi, je l'ai vu sur un tournoi de foot, c'était horrible. Il y a un mec qui le mettait coup sur coup, et Rudy dit rien. Il prend les coups, puis au bout d'un moment, il y a un duel. Bah, il envoie le mec à terre, Rudy, il regarde le mec et il lui shoot dans la tête. Il aurait pu tuer le gars, quoi.
Oh, waouh.
Ouais.
D'accord.
Très, très sanguin.
Okay.
Mais
je ferai en sorte qu'il est dans mon équipe.
Mais
si
super, c'était un super footballeur.
Donc toi, pour ce match à Beaujoire, donc la première... Tu es déjà en train de jouer, parce que tu disais, oui, tu as presque 9 ans, tu es déjà un petit joueur de foot.
Ça fait déjà 5 ans que je fais du foot.
Ok. Et tu es quand même pas mal, tu as un bon petit niveau.
Ouais, j'avais un bon petit niveau. Je pense que, enfin après, j'aurais pas pu faire pro parce que j'étais pas assez constant. Mm-hmm. Et physiquement, j'avais du mal à. Le sens de l'effort était pas vraiment. En fait, comme j'étais très à l'aise techniquement, j'avais tendance à jouer beaucoup sur ma technique et à être un petit peu paresseux sur le terrain, à pas énormément courir. Mais de mon équipe de junior, tous les joueurs, je crois, ont fait pro, sauf moi.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Un sacré bonne équipe.
Ouais.
Bah, on va y revenir parce que j'ai la liste de ces matchs.
Abdeslam Ouadou, etc. Tous ces mecs-là.
Ah oui, oui.
Ouais, ils ont tous fait pro, Chouchou Botelin, ça. Et certains, je suis encore en contact avec lui et tout. Mais non, j'étais un bon joueur de DH, quoi, tu vois.
Fan de Nantes que tu es à cet âge-là, donc Buruchaga c'est ton héros, l'Argentin.
Ouais.
Il y avait d'autres dans l'équipe-là, c'était à cette époque-là.
J'aimais bien tous les joueurs. J'adorais Touré,
José Touré quand même.
Ouais, Touré, j'adorais, mais après il avait un truc, je sais pas, il y avait un truc. Buruchaga, c'était un joueur frisson, quoi. C'était un joueur où il avait un toucher de balle que j'adorais, quoi.
Ouais.
Et puis ça correspondait plus à ma façon de jouer aussi. Moi j'ai jamais été un joueur très rapide. Et j'étais un joueur qui avait une bonne vision du jeu et je sais pas, je me retrouvais dans ce mec en fait. Et puis le fait qu'il soit argentin, il y avait un truc qui me fascinait, tu vois, l'Amérique du Sud, le truc,
ouais.
Tu vois, c'est une terre de foot, ça me faisait rêver vachement plus que la France en fait finalement.
Ah ouais.
Et puis c'est une époque où l'équipe de France est pas très forte, tu vois, et où l'équipe d'Argentine est très forte. Mes joueurs cultes, c'est Maradona, c'est Buruchaga, enfin tu vois, c'est quand je suis la Coupe du Monde plus tard. Je suis plus supporter de l'Argentine que de la France, en fait.
Justement. oui. Justement, la transition, oui, parce que le match numéro 2, les amis, on est le 29 juin 1986, donc c'est la même année, quelques mois plus tard. Mais là, on est au Mexique, dans le stade Azteca.
Ouais.
Il y a 114 600 spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine de Francanèse, et l'Allemagne de l'Ouest. Donc, pourquoi avoir choisi ce match-là en particulier?
Parce que c'était déjà Buruchaga marque dans ce match.
Ouais. But de la victoire.
Ouais, le but de la victoire. C'est un match, c'est fou pour moi. C'est ma première Coupe du Monde. Moi, j'ai pas vécu la Coupe du Monde 82 vraiment parce que j'étais trop jeune, j'avais 5 ans. Et la Coupe du Monde 86, ça a été un grand moment parce que je suis pas supporter de la France, mais je regarde quand même l'équipe de France. Mais moi, je suis pas fan de Platini, tout ça, etc. C'est pas mon
nom. Non, expliquer ça.
Parce que c'est pas ma génération. Platini, c'est la génération de mes parents. Mon père est fan de Platini. Enfin, tu vois, il adore l'équipe de France.
Ouais.
Mais moi, ma génération, c'est Maradona, en fait.
D'accord.
Tu vois, et donc moi, le joueur qui m'a fait vibrer, c'est Maradona, c'est Buruchaga. Donc c'est ces joueurs-là, tu vois.
Ouais.
C'est José Luis Brown, c'est toute cette petite clique argentine, comme ça, qui vraiment me fait rêver.
Valdano.
Et Valdano, qui est super et tout. Enfin, toute l'équipe est mortelle. Donc je fantasme le foot à travers, et puis je sais pas, l'Amérique du Sud, il y avait un truc qui était dingue, tu vois, même ça se joue au Mexique, le Mexique ça prend tout de suite une dimension qui est dingue chez moi, alors que j'y suis jamais allé et que je n'ai qu'une image qui est le Guadalajara, Mexico, enfin tu vois, mais pour moi c'est dingue en fait ce qui se passe là-bas, tu vois, ça me fait découvrir le monde. Et vraiment, quand t'as l'Argentine qui va au bout contre une équipe de type qui sont quand même, enfin, je veux pas faire d'anti-germanisme, mais l'Allemagne, quand t'es français, bon, on va pas faire de dessin. Et puis t'as des joueurs, Karl-Heinz Rummenigge et tout. Enfin, tu vois, c'est du. J'aimais bien Rudi Völler parce qu'il avait un côté un peu roublard qui me faisait marrer. Et puis il s'appelait Rudi comme mon petit frère.
Ouais.
Donc il y avait j'avais un affect pour Rudi Völler.
Ouais.
Mais à part ça. Je peux te dire que l'Allemagne, je les détestais, quoi.
En plus, l'Allemagne, même si tu dis que tu n'étais pas supporter de l'équipe de France, l'Allemagne venait de sortir les Français en demi-finale.
De manière injuste. J'ai un petit pic d'amour pour l'équipe de France quand on bat le Brésil. Je me souviens, on est dans un hôtel dans le Finistère avec mon père, à un mariage.
Ah oui.
Et tout le monde regarde le match. Et c'est la première fois que je vois des gens casser des assiettes, devenir fous. Manger des assiettes. Mon père et ses potes, ils mangeaient les assiettes. C'était n'importe quoi. Et ils étaient fous, mais fous. Quand la France bat le Brésil, ils deviennent fous, quoi.
Ouais.
Et
un match de dingue.
Ouais, et c'est la première fois que je vis une folie intime. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas dans un stade, c'est pas dans le cadre d'un stade, c'est dans le cadre de gens, d'une réunion de gens normaux dans un lieu lambda, dans un hôtel du Finistère. Et les mecs pètent tout et deviennent complètement dingues pour un match de foot, quoi. Mais ils cassent tout, c'est n'importe quoi. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai cette image-là. Si ça se trouve, ils n'ont pas tant cassé que ça, mais moi, je suis un gamin.
Ouais.
Et je vois des gens, mais casser des assiettes.
Quand Luis Fernandez marque la dernière tir au but.
Qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et je trouve ça génial. Et donc là, du coup, j'ai une petite cote d'amour pour l'équipe de France qui, après, se fait sortir par la RFA de manière un peu dégueulasse. Et puis du coup, l'Argentine venge tout ça. Et puis l'Argentine, il y a un parcours de brigands. Enfin, tu vois, c'est des petits rapineurs. L'autre, il a marqué de la main contre l'Angleterre.
Ouais, c'est pas un Anglais qu'il faut rappeler tout ça, évidemment.
mais c'est génial, quoi.
Enfin, tu vois, tout frais, ça.
Il y a un truc qui est. Je sais pas. Je...
Donc, toi, tu fais partie de ceux qui ont applaudi Maradona quand
Bien
il
sûr.
Marquait la main contre les Anglais.
Ouais. Moi, j'applaudis la ruse et la. Ouais, à fond. Je suis pas du tout un mec moralisateur et quoi que ce soit. Le mec, il a fait un coup. Je préfère le génie à la morale, vraiment. Et donc, il est quand il fait ça, moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Et surtout, il le fait avec humour. En fait, c'est-à-dire que ce que j'aime bien chez Maradona, c'est qu'il a un humour de dingue. Et quelques années plus tard, il va marquer un autre but de la main contre l'Udinese avec Naples. Et il y a Zico, je crois que c'est ça, mais qui vient le voir et qui lui dit Diego, t'as marqué de la main. Et l'autre, t'as marqué de la main, tu es un imposteur. Et Maradona lui serre la main et lui fait enchanté Diego, imposteur. Il en a rien à foutre. C'est vraiment un petit rabouin. J'aime bien. Enfin, je trouve ça touchant, quoi. Et voilà.
Donc la finale, t'es carrément pour la.
Et moi, sur le terrain, si j'avais pu marquer un but important de la main, je l'aurais fait, quoi. Vraiment, j'étais ce joueur.
D'accord.
Vikash Dorasso, qui était devenu un ami après. Il m'appelait Pippo Inzaghi sur le terrain parce que j'avais ce côté avant-centre un peu
prêt à tout.
Ouais. Du moment qu'il y a but, il y a but, en fait.
D'accord.
Je m'en fous, quoi.
Okay.
On te voit. J'étais vraiment une. D'aucuns auraient dit j'étais une salope sur un terrain.
Et donc là, cette finale est vécue de quelle façon là, parce que tu
chez moi.
De...
Avec mon père, mon frère, on regarde le match à la maison. Mmh. Et c'est sur la télé de la cuisine. Donc la télé, elle est un peu en hauteur sur le frigo. Et c'est fascinant. Enfin, j'ai l'impression de vivre un moment d'histoire que je revivrai sans doute jamais. Et je crois pas avoir vraiment vécu une finale de Coupe du Monde qui m'ait autant marqué, en fait.
Ah oui.
Ouais. Même quand la France a gagné en 98. C'était pas pareil pour moi. C'était la France de 98, je vois la finale à Remiremont ou à Épinal, je sais plus, dans les Vosges, avec ma petite amie de l'époque et les potes de son père et tout. C'est très cool, je suis content, je suis avec elle, c'est sympa et tout, mais je m'en fous un peu, en fait.
T'as pas autant vibré que pour l'Argentine?
Non. Ouais, c'est pas la même chose, en fait.
Ah ouais.
Je pense qu'il y a quelque chose qui tient de l'enfance, il y a quelque chose qui tient de l'émerveillement, et puis il y a quelque chose qui tient de la bande qui était cette équipe, en fait, qui était vraiment, une bande de voleurs, quoi. Et ils font un casse, quoi.
Ouais.
Les mecs. Et en 90, quand ils sont prêts à refaire le casse, mais je suis comme un dingue aussi, tu vois. Et vraiment. Et ça, je me souviens, je les regarde dans ma chambre, le match tout seul. J'avais une télé dans ma chambre. Et je regarde le match tout seul et je suis effondré qu'ils perdent.
En finale contre les Allemands.
Ouais,
c'est
Allemands.
La même finale quatre ans plus tard. Ouais. Bah tiens, on va rester en 1990. Franck, tu m'offres des transitions merveilleuses. Là, le match numéro 3. C'est un Nantes-Marseille.
Ouais, Nantes-Marseille de 90.
Mais tu vas me parler...
Bah, c'est un match important
pour
moi.
Un peu moins de ce match-là,
apparemment. Je ne me souviens pas trop du match, pour être honnête. Je me souviens juste que Marseille, il y avait une équipe de dingue. Mm-hmm. Parce que c'est l'équipe où il y a Chris Waddle, Stojkovic, Cantona, Papin, Olmeta, machin et tout, etc. Enfin, c'est fou. Et je me souviens surtout d'eux, pas sur le terrain, mais je me souviens d'eux sur le bord du terrain, en train de nous regarder jouer. Parce que je fais le match d'ouverture, en fait.
Donc, comment ça se fait? Parce que là,
à l'époque.
Ça n'existe presque plus, ça, les matchs.
Ça n'existe plus. Mais à l'époque, il y a des matchs d'ouverture. C'est-à-dire qu'avant les matchs de pro, il y a des matchs d'ouverture, soit de l'équipe B, donc des matchs de national, soit de plus jeunes. Et en l'occurrence, là, c'est un match de plus jeunes. Et moi, je fais le match avec les stages de foot Jean-Vincent, qui sont les stages du FC Nantes.
D'accord.
Et donc, je ne dois pas jouer ce match au départ. Parce que je me suis blessé pendant le stage. À la cheville. Et ils me font des séances de ionisation pour que je puisse jouer.
Wow.
Et je joue le match.
T'as 12-13 ans, là.
J'ai 13 ans, ouais. Et à l'époque, il y a une Coupe du Monde en 90 où il y a Roger Milla qui faisait des danses, donc le footballeur camerounais, qui faisait des danses au poteau de corner quand il marquait un but. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il faisait une danse, machin. Et moi, je suis déjà un petit peu fanfaron et je dis à mes potes, les gars, si je marque un but, je vous préviens, je vais faire la danse au poteau de corner. et je joue ailier, je me souviens, ailier gauche. Et je suis droitier, donc j'ai tendance à beaucoup repiquer dans ces cas-là. Et en face, les mecs sont assez costauds, quoi. Ils sont vachement plus costauds que nous, tu vois, même physiquement et tout, tu vois, c'est quand même des gaillards et tout.
Tu joues contre qui ?
C'est une autre équipe, alors ils portent le maillot de Toulouse, mais en fait, c'est une autre équipe du stage Jean-Vincent. En fait, ils ont séparé le stage en deux.
D'accord.
Et c'est une autre équipe du stage Jean-Vincent.
Mais pour ceux qui ont regardé, ça faisait
Nantes-Toulouse. Et donc, je connais les joueurs d'en face, tu vois. Ouais. J'ai fait une semaine de stage déjà avec eux et tout, on se connaît tous, machin et tout, etc. Mais t'as quand même une rivalité, on a quand même envie de gagner et tout.
Et tu joues quand même sur la pelouse de la Beaujoire.
Mais attends, c'est filmé. Mon père, il a pris les caméras de France 3. Donc moi, j'ai la cassette vidéo de ce match.
Incroyable.
Et donc mon père, il filme le match et tout. Et avec ses caméras, avec ses potes, machin. Donc il y a trois caméras qui filment le match, trois ou quatre caméras qui filment notre match.
Fabuleux.
Machin, et j'ai la cassette vidéo chez moi et tout. et bref, et donc je suis à bloc. Et je sais pas, peut-être 10 minutes de jeu. La balle arrive, coin de surface, poum, je fais un crochet, paf, je frappe, je marque.
Waouh.
1-0. Et là, je suis tétanisé. Je ne bouge pas. Parce qu'il y a, y a déjà du monde dans le stade et tout. Enfin, tu vois, le stade n'est pas plein, mais le stade est quand même relativement rempli. Moi, je n'ai jamais joué devant autant de gens. Je suis sur le stade de la Beaujoire, c'est le stade de mes rêves et tout. Je porte le maillot du FC Nantes et je marque. Mais je suis pouf, je ne bouge plus, quoi. Je ne sais plus quoi faire.
La danse de Roger Milla, tout ça.
La danse de Roger Milla, tu oublies, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Le Franck Hanez, il se chie dessus. Et je suis comme un bébé, quoi. Et en même temps, très heureux et tout. Après, je fais encore une passe décisive et finalement, on gagne 4-1 ce match.
Ouais.
Et sur le bord du terrain, t'as les joueurs de Marseille qui nous regardent. Et t'as Max Bossis qui est revenu au FC Nantes et tout, tu vois. Et donc, moi, c'est mes héros quand même. Et ils sont en train de nous regarder, tu vois. Et moi, je marque, je fais passe décisive, machin et tout, etc. Et en face, il y a un joueur qui est très fort, qui s'appelle Bertrand Lamoureux, qui réduit le score après un slalom assez impressionnant. Je me souviens très bien de son but. Il fait slalom, bam, il met une chiche pleine lucarne. Et il marque le but. Donc on gagne 4-1 le match à la fin. Et en sortant du match, il y a Cantona qui va le voir. Et je me souviens, il était en Converse. C'est fou, hein, je me souviens de détails. Il est en Converse et il va voir Bertrand. Et il lui fait « Toi, t'es un grand joueur. Hein, tu auras une belle carrière, t'es un grand joueur. »
Ah, wow. Putain,
je regarde Bertrand, je me dis « Waouh, bâtard !» Et si tu vois les photos de l'époque, Bertrand, il fait trois fois mon poids, deux fois ma taille. Ça n'a rien, c'est n'importe quoi, tu vois. Et moi, je suis vraiment une crevette, quoi. J'ai un physique de hyper chétif et tout, mais j'ai une bonne petite technique. Et on reste potes avec Bertrand, en fait, de cette époque-là. Et c'est marrant parce qu'on se parle toujours.
Ah oui.
Et là, il y a encore quelques semaines, on s'est dit, putain, quand est-ce qu'on se refait un foot, quoi.
Génial.
Et lui, il a fait football professionnel. Il a joué à Brest, il a joué dans des clubs, dans à peu près tous les clubs de Bretagne. Mais il a une bonne petite carrière et tout. Et ouais, bon joueur, quoi.
Wow.
Bon joueur. Et Cantona est venu lui dire, et on s'en reparlait la dernière fois, je lui dis, putain, tu te souviens quand même de ce match et tout, parce que je lui ai renvoyé la photo, il m'a dit, putain, t'as la photo du match et tout. Je lui dis, ouais. Il me dit, ça, c'est dingue. Et je lui dis, tu te souviens quand Cantona est venu le voir à la fin du match, il me dit, ouais, c'était incroyable. Et il est venu le voir, et il lui a dit, ah, oh, t'es un bon joueur.
Extra.
Machin. C'était des souvenirs, tu vois, quand t'es gamin, t'as 13 piges. Enfin, tu vois, c'est des souvenirs qui sont assez impérissables, quoi.
Ah, et, c'est fabuleux, oui.
Et voilà, donc c'était un grand moment, ouais.
Et pour la petite histoire, ça a fini un partout entre Nantes et Marseille. Hein,
ce qui est pas mal pour Nantes.
Si vous posiez la question. Christophe Robert et Basile Boli, voilà, c'était un partout.
Christophe Robert, belle carrière après. Hein.
Ouais,
un mec qui a creusé son jardin à Valenciennes.
Voilà, en tout cas, ouais, c'était surtout pour parler de ton match et ton but marqué sur cette pelouse de la Beaujoire. Vous écoutez Les Matchs de ma vie, les amis, le podcast de Beansport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Franck Hanez, l'homme qui ne s'arrête jamais, patron de presse, guitariste, batteur, joue de la piano maintenant. Il est papa, il ne s'arrête jamais. On a de la chance de l'avoir coincé pour quelques minutes pour ce podcast. Alors, Franck, le match numéro 4, c'est lequel et pourquoi ?
Finale de l'Euro. Avec ma fille.
2016.
En fait, ouais. On est au stade avec ma fille et en fait, C'est chouette parce
que... Comment ça se fait que t'es avec ta fille?
Eh ben, en fait, ce que j'aime bien, c'est que, à une époque où moi, je m'intéresse un peu moins au foot, en tout cas, à partir d'un certain moment, je suis plus supporter du FC Nantes parce que Valdemar Kita rachète le club. Alors que nous, on fait une proposition pour le racheter quand c'est Dassault qui possède le club. Donc nous, on a déjà SoFoot et tout.
Oui.
Et je me souviens, j'appelle Vikash pour savoir s'il peut me prêter 2 millions d'euros.
Ah oui.
pour participer au rachat, oui, du FC Nantes. Et on rencontre Maître Matignon et tout, qui est l'avocat de la famille Dassault pour ce sujet-là et tout. Et nous, on fait une proposition à 8 millions d'euros. Qui est une proposition un peu fantoche, on va pas se mentir, parce qu'on les avait pas du tout les 8 millions d'euros, mais évidemment...
Ça se tente.
Ouais. On les aurait sûrement trouvés. En tout cas, ils vendent à Valdemar Kita, je crois, pour 20 millions d'euros. Et Valdemar Kita détruit ce que j'aimais dans le FC Nantes, à savoir ce côté familial, ce côté formation. Moi, j'allais régulièrement à la Jaunelière voir les entraînements du FC Nantes et tout. Enfin, j'étais vraiment un fan... Et c'était un club très important pour moi. Et tu vois, je sortais jamais le samedi soir parce que je préférais écouter les matchs à la radio. J'habitais pas à Nantes, j'habitais à Rennes, puis après à Nancy et tout. Mais j'ai toujours suivi le FC Nantes. Et puis à un moment donné, bah voilà, le FC Nantes devient rien pour moi. C'est-à-dire un club comme un autre, avec une politique un peu nulle de club de milieu de tableau qui sert à rien et qui n'a plus d'intérêt. Enfin, je perds toute illusion. Pour le FC Nantes, à partir du moment où Valdemar Kita prend les rênes, et jamais il ne retrouvera ma confiance, en tout cas, enfin jamais je redeviendrai un supporter du FC Nantes comme j'ai pu l'être, même si c'est toujours mon club de cœur. Donc je lâche un peu le foot, parce que en fait, quand t'as plus d'équipe de club, tu commences un peu à lâcher. T'as plus ce lien, donc je deviens supporter de l'équipe de France, bizarrement.
Ah, enfin.
Enfin. et donc tout à coup, je deviens un peu chauvin. Et fan de l'équipe de France, et il se trouve que j'ai une fille et que ma fille se met à non pas aimer le foot de manière irrationnelle, mais à prendre plaisir à regarder des matchs de foot avec son père, avec ses potes, machin. Je lui ramène des maillots de foot, elle est contente, elle aime bien et tout, et il y a un petit lien comme ça qui arrive à se créer autour du foot. Et ce match-là, c'était un match important parce que c'est une finale de l'Euro, t'en vois pas toutes les semaines. Aller à ce match avec elle, c'était vraiment un truc chouette, quoi.
Ouais.
Et ouais, c'était un match important. Je suis invité par un pote qui me chope les deux places, qui était jusqu'il y a peu de temps d'ailleurs directeur marketing de l'Olympique Lyonnais. Monsieur Primo, et donc du coup ouais, on se retrouve à ce match et c'est au Stade de France, c'est super, on y croit, on est persuadé qu'on va gagner.
Oui, parce que la France avait battu l'Allemagne en demi à Marseille, avec Griezmann,
c'est écrit qu'on va gagner, c'est sûr qu'on va gagner. En plus, le Portugal n'a pas une équipe vraiment dingue,
enfin, ouais, tu vois, c'est pas aussi forte qu'aujourd'hui.
Non, c'est une équipe de soutien, quoi. C'est des mecs qui font des efforts, mais bon, il n'y a pas vraiment de génie, quoi, à part Cristiano Ronaldo. Et ces salauds, ils nous battent, quoi. Et c'est dur, tu vois, parce que moi, j'avais envie que ce soit une victoire, tu vois, t'es avec ta fille et tout.
Ouais.
Et en fait, c'était marrant parce que elle était pas triste, en fait. Elle était contente d'être allée voir le match avec son père. On avait sauté, machin et tout, etc. Je me rappelle, on était dans une tribune un peu particulière, puis c'était Pedro Winter. Enfin, tu vois, c'était un peu toute la clique de gens un peu branchés, parisiens, machin et tout, etc. Donc, mais quand même des gens qui aiment vraiment le foot. Mmh. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on était dans une tribune où on pouvait sauter, on pouvait danser, on pouvait chanter. On n'était pas du tout dans un truc snob,
ouais,
ou quoi que ce soit. Et donc, on avait chanté, on avait, etc. À l'époque, je me rappelle, avec SoFoot, on avait lancé une chanson pour Moussa Sissoko sur l'air de « Il m'entraîne au bout de la nuit, des démons de minuit ». Et on avait lancé ce truc qui était devenu un peu un tube du stade. En fait, tout le monde l'avait repris, comme on a pu faire un peu plus tard après avec N'Golo Kanté, les Champs-Élysées. Mm-hmm. En fait, avec SoFoot, on a lancé pas mal de chants comme ça qui sont devenus ultra populaires. c'était devenu un peu notre marque de fabrique à un moment donné. Et donc, du coup, je me rappelle, on avait chanté pour Sissoko et tout. Enfin, c'était un bon moment.
Tu te rappelles un petit peu ce que ça donne?
La chanson?
Ouais.
Bah, je vais pas te la chanter, quoi, mais je chante vraiment trop faux.
Ah.
Bah, c'est les démons de minuit avec Moussa Sissoko, quoi. À la place des démons de minuit. Et il m'entraîne au bout de la nuit, qui ça, qui ça. Moussa. Mais c'était drôle, ouais, c'était chouette et c'était un super moment partagé avec ma fille.
Ouais, même si effectivement.
Même s'il y a une défaite au final, en fait, le fait de voir le match avec elle fait que la défaite était. En fait, des fois, c'est plus important la personne avec qui tu vois le match que le résultat du match, en fait.
Eder, pendant les prolongations, 1-0 pour le Portugal, qui bat l'équipe de France lors de cette finale de l'Euro en 2016. Allez, le dernier maintenant des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Franck Hanez, c'est lequel et pourquoi?
C'est la dernière finale de Coupe du Monde. Et c'est un peu la même raison, sauf que au lieu de le voir avec ma fille, je le vois avec ma petite amie qui s'appelle Nadège. Et elle en a un peu rien à foutre du foot, en fait. Je me souviens, on devait aller le voir chez des potes. Et puis elle était un peu malade et tout, donc on dit on va demander aux potes de venir ici, quoi. Et on fait le match à la maison. Moi c'est assez important. Enfin, c'est alors que je suis supporter d'équipe de France, mais que je suis un peu décroché du foot parce que j'ai passé la main sur SoFoot et parce que je regarde moins les matchs quand même. Mmh. Et puis que le foot est devenu un truc qui des fois m'indiffère voire me dégoûte pour le côté un peu trop le fric avant tout, et il y a plus ce côté humain qu'il pouvait y avoir même au début où on a fait SoFoot, etc. Je trouvais qu'il y avait encore, les joueurs étaient encore très humains et très accessibles, et tu pouvais vraiment créer quelque chose avec eux, et tu sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fort avec
ces joueurs. T'avais encore la possibilité d'avoir un accès
Il y avait de l'humanité, en fait. T'avais un truc où tu sentais qu'ils étaient très humains, en fait. Mm-hmm. Et qu'ils n'étaient pas dans un monde complètement déconnecté de notre monde. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué, je trouve. Il y a une déconnexion qui est quand même vachement plus forte. Des enjeux qui sont vachement plus forts. Des carrières qui sont plus absurdes. Ça devient... L'individualisme a vraiment pris le pas dans ce sport de manière très très forte. Donc ça m'a fait un peu décrocher de certains aspects du football. Mais voir un match de foot important avec elle, c'était important. J'avais le cœur qui battait, quoi. J'étais quand même et j'aurais trop aimé qu'on gagne. Ça aurait été vraiment super. Il faut apparemment, à chaque fois que je vois des matchs avec des gens que j'aime, on perd. Donc il va falloir trouver un remède à cette malédiction. Mais c'était je pense que pour elle c'est pas un moment si fort que ça, parce que c'était un match de foot et elle est pas forcément fan.
Surtout pendant 80 minutes niveau supporter de l'équipe de France, on s'emmerde un peu, quoi. Il n'y a pas un tir cadré pendant 80 minutes.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis tout
ça
s'emballe
et ça devient fou.
Et ça devient la finale la plus incroyable.
Ça devient fou. Et moi, il y a un bar juste en bas de chez moi, donc du coup, ça hurlait dans tous les sens. On avait les fenêtres ouvertes, etc. Et alors, en plus, c'est aussi signe des temps. C'est que c'est l'époque où tu regardes les matchs avec des rétroprojecteurs, des machins, des trucs, etc. Tu vois, donc moi, c'est le cas chez moi. Et donc, tu as un décalage.
Donc tu entends du bruit
l'enfer,
avant d'avoir vu.
L'enfer.
C'est terrible. Ouais.
Mais c'est pas mal, parce que du coup, c'est quand même bien le signe de l'époque, quoi. C'est quand même que tu regardes les matchs, il y a tout qui est décalé, il y a rien qui est en même temps, parce que même le bar, il est décalé par rapport à la vraie diffusion. Enfin, tu vois, ça veut rien dire, en fait. Donc tout le monde essaie d'avoir l'information, mais en même temps, tu essaies de quand même vivre ton émotion et tout. Donc ça donne des situations un peu ubuesques, un peu drôles. Mais je me souviens qu'elle était dans mes bras pendant le match, et ça c'est un moment qui restera.
Belle fin d'histoire
malgré la défaite.
La défaite encore, oui, effectivement, t'as fini sur deux matchs perdus.
Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, un match perdu quand t'es bien entouré.
C'est joli. Et toi, tu joues encore?
Je rejoue là un peu, ouais. J'ai envie de rejouer là. Donc là, je vais faire une petite pause d'un mois, parce que là, je ne peux pas jouer pendant un mois, pour des raisons médicales. Mais après je reprends, ouais. Je reprends, et en fait, ça revient assez vite, quoi.
Ah ouais?
Ouais, enfin, assez vite. Physiquement, c'est plus dur, parce que j'ai plus 20 ans, mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait... Donc ma fille a grandi maintenant, elle a des potes qui ont 17-18 ans. Et en l'occurrence, elle a une petite bande de potes là qui ont 18 piges et qui nous ont défiés, qui nous ont dit « Ouais, on va vous battre, vous les anciens,
ouais,
et tout,
les
etc. »
Ouais.
J'ai dit « Ok, pas de problème, on organise un match. » Et je leur ai dit, on va faire un truc très simple. Parce que vous courez beaucoup, vous avez 18 ans, c'est normal. Moi, je cours moins. Mais par contre, je joue avec ma tête, en fait. Et j'ai une vision du jeu que vous n'avez pas. Et donc, je vais venir avec un maillot blanc. Et à la fin du match, il n'y aura pas une trace de transpiration sur mon maillot, en fait. Et on aura gagné.
Et alors ?
Et on leur a foutu 20-14. C'était un match de 5. 20-14. Et à la fin, je suis allé leur faire sentir mon maillot. Dans mon premier essai, il n'y avait pas une once. Mais pas une once de sueur. J'ai à peine couru pendant le match. Et je leur ai collé un paquet de buts. Et
ton frère Rudy en a mis deux à l'hôpital.
Non, il a pas joué avec nous. Sinon, s'il avait joué avec nous, on les aurait explosés. Mais en fait, la technique se perd un peu, mais pas tant que ça. C'est juste que tu as moins de vivacité et tu peux plus accélérer, etc. Mais en vrai, quand tu as un ballon dans les pieds, tu sais à peu près quoi en faire, quoi. Donc ça se perd pas trop. Et je continue à jouer. Et puis j'ai envie de jouer plus, là. Je vais m'y remettre vraiment, je pense. Si je pouvais faire une fois par semaine, ça serait cool.
Attention, Franck Hanez, footballeur, est de retour.
Ouais, ça va faire mal. On a une bonne petite équipe. Enfin, y a les anciens de SoFoot, les anciens, si on dirait des vieillards, quoi. mais tu vois, on est toute une petite bande où, en vrai, il y a un peu de ballon, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, quand on joue, on peut jouer contre des mecs où ça joue correct et on peut tenir.
Organiser un match. SoFoot Bean.
Ouais, mais à mon avis, on vous explose.
Ouais, à mon avis, tu as peut-être raison.
Mettez Omar da Fonseca.
Oui.
Il est toujours chez Bean ou pas?
Oui, bah lui, il va avoir le maillot qui transpire pas à la fin aussi.
Mais tu sais qu'il était dans le match Nantes-PSG, mon premier match.
Il était là?
Il jouait avec le PSG.
Ah, ouais.
Voilà. Il jouait avec le PSG.
Grande.
Donc si je peux lui mettre une deuxième défaite d'affilée, je porterai un maillot de Bruchaga. Qui vienne avec son maillot du PSG, je viens avec mon maillot du FC Nantes, avec un petit 7 dans le dos. Parce que moi, tu me mets un 7 dans le dos, je suis invincible. 7 ou 11, aujourd'hui, je suis invincible.
Le défi est lancé. On va se quitter là-dessus, Franck. Merci d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. C'est vraiment chouette.
Avec grand plaisir.
D'écouter tes histoires. Et on te souhaite donc beaucoup de matchs mémorables à venir.
Et j'espère.
Vu que tu te remets à jouer au foot. Merci beaucoup, Franck. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. En tout cas, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et à très vite donc pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie.
Salut, c'est Fred Testo. Avec le journaliste Mohamed Bouafsi et l'addictologue Laurent Carilla, on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Si je vous dis qu'on peut toujours se refaire aux paris sportifs après une perte, vous me dites...
Quand on perd, c'est tentant de rejouer pour se refaire.
Professeur ?
C'est une des étapes caractéristiques du jeu problématique, en fait. Le gain, la perte, l'espoir de se refaire, le désespoir. Vouloir se refaire après une perte, c'est humain, mais c'est là que commencent tous les problèmes.
Décidément, parier, c'est pas rien.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.